des mots pour le dire. Dominique Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un dont nous savons qu'il va mourir, nous voyons en lui le mourant qu'il sera et non le vivant qu'il est toujours. Faisons donc en sorte, quand il s'agit d'une personne consciente, que ce soit bien un vivant que nous accompagnons jusqu'au terme et qu'il puisse être, comme le vieillard biblique, rassasié de jour. Ces mots appartiennent à la philosophe Jacqueline Lagré, professeure de l'Université de Rennes et spécialiste de Spinoza et des néo-stoïciens. La peur de la mort est plus ou moins présente dans tous les esprits, à plus forte raison chez les agonisants. Mais la peur prend de nombreux visages qui évoluent et se modifient à travers les siècles. Peur du nouveau régime après la Révolution française, peur du communisme, peur du nucléaire, peur du chômage, peur du terrorisme. Écoutons le point de vue de deux historiens, Jean Delumeau et René Raymond. C'est extrait de l'émission Le siècle des émotions par Fabrice Dalmelda.
Il n'est pas mauvais de revenir à la définition de la peur.
Voilà. Jean Delumeau.
La peur est la prise de conscience d'un danger qui menace, croyons-nous, notre sécurité.
Oui, alors là,
c'est
oui.
Ça la définition
ça s'applique.
De la peur.
Alors là, oui. 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 En fait, la sécurité, au sens large du terme, est atteinte.
La sécurité de l'emploi et la crainte de perdre un emploi.
Et par-delà la sécurité de l'emploi, c'est la sécurité de l'existence.
Absolument.
Et de la famille et du foyer. Et comme on a tendance à l'identifier souvent à la stabilité locale, presque géographique, le seul fait de devoir, et ça rejoint ce que nous disions de la peur de l'inconnu, qu'est-ce qu'on va devenir ? Rien que la question le traduit, au fond.
C'est ça.
Qu'on va devenir ? L'obligation de changer, peut-être,
et alors,
le métier.
Je pense justement que la peur du chômage est génératrice d'angoisse à cause de cet inconnu qui se trouve derrière. Il y a une peur précise, perdre son emploi, et puis... Tout un inconnu, tout un paysage inconnu qui est derrière, et là, il y a plus que la peur, il y a l'angoisse, et c'est très inquiétant.
Et doublé effectivement par la peur du changement, parce que voyez les conflits sociaux qui démarrent non pas à cause de la perte de l'emploi, mais parce qu'on risque de modifier les conditions de travail et d'obliger à une reconversion. Mmh. Il y a les conflits qui éclatent parce que les conditions de travail vont se trouver changées, sans que pour autant soit affectée la sécurité de l'emploi. L'homme a peur du changement, et contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'il en rêve quelquefois, beaucoup font campagne pour, en parlent, construisent leur programme dessus. En définitive, il n'y a probablement rien dont l'homme ait autant horreur que du changement.
L'homme est naturellement conservateur, ça c'est sûr.
La peur, vous l'aurez compris, c'est le thème de notre série d'émissions en compagnie du docteur Dominique Demichel. Bonjour Dominique.
Bonjour Simon.
Alors la semaine dernière, nous avons parlé de la manière dont les praticiens abordaient la question de la mort avec leurs patients, mais aussi l'espérance évidemment que représentait la religion. Dominique Demichel, j'aimerais vous faire réagir par rapport à ce que nous venons d'entendre, cet extrait de Jean Delumeau et René Raymond. Évidemment, la mort, c'est la grande inconnue. Il est extrêmement difficile d'imaginer ce qu'il y a après.
Oui, on peut même dire probablement que ce qu'il y a après, c'est par définition l'irreprésentable. On n'a absolument aucune possibilité de se faire la moindre représentation. Ça n'est pas imaginable. On peut construire quelque chose, mais puisque vous évoquiez la question du religieux, quand on regarde par exemple le discours des religieux ou des religions, il y a l'idée, il y a quelque chose après la mort, c'est-à-dire la mort n'est pas une fin définitive avec une disparition de l'identité ou une disparition de l'être, mais quant à ce qu'il y a, en gros, il n'y a pas de discours dessus, il n'y a pas de représentation. Hein. Il y a des représentations de l'enfer et du paradis.
Oui, je pense à Jérôme Moche qui a beaucoup travaillé là-dessus, par exemple. Hein.
Voilà, mais c'est une représentation et personne n'a le sentiment que c'est une représentation qui prétendrait à une réalité. Hein, voilà.
Et pourtant, nous l'avons vu aussi la semaine dernière, dans les EMI, une espèce de consensus sur une forme de représentation, le grand tunnel noir, la lumière au bout du tunnel, ça fait presque partie maintenant de notre mythologie universelle.
Oui, mais je pense que c'est une représentation du passage. Ce n'est pas une représentation de l'après. Hein. Si on prend la métaphore, par exemple, de changer de rive, hein, souvent on dit changer de rive, alors probablement la traversée du fleuve pourrait être en quelque sorte illustrée Et peut-être là, il y a une universalité, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs une objectivité, mais une universalité de l'imaginaire, avec peut-être un sous-bassement objectif, c'est possible, mais personne n'en sait rien. Mais en tout cas, ça concernerait le passage. Ça ne concerne pas ce qu'il y a sur l'autre rive. Et je rappelle combien c'est absolument indispensable qu'il n'y ait pas de représentation de l'autre rive. Parce que notre vie serait complètement changée. Imaginez, par exemple, que la connotation de cette autre rive soit plutôt négative. On ferait tout pour absolument rester de ce côté-là de la berge. Imaginez, par exemple, que l'autre côté de la rive soit une sorte de paradis tel qu'on peut l'imaginer. Alors, les gens diraient, j'en ai marre de mon employeur, et puis voilà, je change de rive, et puis je choisis de mourir.
Oui, mais docteur Dominique Michel, je me permets de vous couper, et c'est une vision tout à fait moderne, parce que pendant très longtemps, les hommes étaient persuadés que le paradis existait, et puis que, justement, il fallait faire attention dans leur vie sur Terre aujourd'hui pour ne pas entacher les chances d'une vie future.
Oui, mais il n'y avait pas de représentation en termes de contenu. Il y avait juste une sorte de certitude que la vie ne s'arrêtait pas là. Dans la tradition chrétienne, c'était le Christ est ressuscité, voilà, ça veut dire la mort en quelque sorte est dépassée. J'aime pas trop dire que la mort est vaincue parce que ça a l'air de dire que la mort serait un ennemi. Non, voilà, j'aime bien penser que la mort s'oppose à la naissance plutôt que la mort s'oppose à la vie. Donc il y a une sorte de temps de passage, là aussi, qui serait le temps de l'existence. Et voilà, au fond, les religions ne disent qu'une seule chose, et c'est juste spéculatif, c'est que l'être persiste après la mort. Voilà, l'être persiste après la mort. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est bien difficile. Et quand on s'interroge, par exemple, sur la place du corps, il y a un discours sur la place du corps dans les religions chrétiennes, mais dans des tas d'autres religions, comme par exemple chez Platon, qui lui d'ailleurs croyait à la réincarnation, le corps en tant qu'objet, pas en tant qu'éventuellement participant de l'être, mais en tant qu'objet, lui disparaît, s'évanouit, et dans la réalité concrète, c'est vrai que les atomes qui nous composent rejoignent les petites plantes vertes, ensuite passent dans les bouches des vaches, se retrouvent dans le lait que les enfants boivent, et puis voilà, la vie continue.
Pour résumer, finalement, qu'on soit athée ou croyant, c'est-à-dire qu'on pense qu'après notre mort, il y a un néant, ou que ce soit la vie éternelle, servie en même, c'est inimaginable.
Pour moi, la croyance, elle ne concerne pas l'idée qu'il y a quelque chose après la vie. Pour moi, la croyance, en tout cas, et à ce titre-là, je dirais, moi, je suis croyant, c'est que la vie a du sens. Voilà. Après, pour moi, le reste, c'est une énigme. Et je pense que j'aurais beau lire tous les livres de philosophie, de sagesse, ou tous les romans policiers, j'en sais rien, parce qu'il y a probablement un savoir aussi là-dedans de la Terre, je n'en saurais pas plus, parce que cette énigme, elle est consubstantielle à la valeur, à la possibilité de donner une valeur à notre existence, puisque nous ne savons pas s'il y a une autre rive. On peut juste croire qu'il y a une autre rive, éventuellement, ou ne pas y croire.
Alors, revenons à notre sujet de la peur qui est liée à des événements qui bouleversent notre quotidien, comme dans les périodes instables. Je pense aux révolutions, et là, je me permets de citer Sylvie Mousset, qui est professeure d'histoire moderne à l'Université de Toulouse. « La peur, dit-elle, était un levier essentiel de mobilisation sociale, à l'origine de bien des mouvements protestataires. Elle marque chacune des étapes de la Révolution française. » Elle se cristallise sur certains moments précis, la Grande Peur, la fuite à Varennes, les massacres de septembre et toute la période à laquelle on donne même son nom, la Terreur. Voilà, docteur Dominique Desmichel, la Terreur, si on a donné ce nom à cette période de l'histoire, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, qui va nous intéresser dans notre série sur la peur. On voit bien que le passage de l'ancien régime à un nouveau régime est évidemment vecteur de peurs innombrables, qui passe de l'inquiétude jusqu'à l'angoisse finale.
Oui, tout à fait. Et en même temps, le début de votre phrase est tout à fait intéressant aussi, il me semble, parce que cette femme, si je vous ai bien entendu, dit que c'est aussi un levier.
Un levier, tout à fait.
Voilà, donc on voit bien
levier que... levier de la mobilisation sociale.
Voilà. Et on peut penser que pendant tout le temps de l'ancien régime, évidemment, il y avait un clergé et puis une noblesse qui s'entendaient pour garder l'essentiel des biens et des commodités de l'existence. Et puis, il y avait un tiers-État qui était largement exploité. Et on voit bien que là, cette possibilité de changement a sûrement été associée à énormément de peurs, mais qu'elle était aussi une sorte d'ouverture, c'est-à-dire d'espoir que les choses changent, pour le côté immanent, et au fond, une espèce d'espérance dans une autre vie, hein, c'est-à-dire une autre modalité d'existence.
Ça dépend de quel côté on se place, évidemment. Si on était bénéficiaire de tous les avantages de l'ancien régime, les peurs devaient être plus grandes, justement, que celui qui avait l'espérance de gagner.
Oui, bien sûr. Alors, je rappelle, je l'avais bien dit la dernière fois, mais je le rappelle pour les auditeurs qui écouteraient cette émission, hein, ces trois mots très importants. On va revenir sur la question de la terreur, même si je ne suis pas sûr d'avoir des choses très, très pertinentes à vous raconter. Mais trois mots, peur, anxiété, angoisse, très important. La peur, c'est par rapport à un objet réel, tout à fait objectif. Voilà, la peur du chômage. On a le droit, et c'est très légitime d'avoir peur du chômage. L'anxiété qui renvoie beaucoup plus à l'imaginaire que je déploie à partir d'une situation. Voilà, c'est-à-dire demain, il va neiger. Si je ne suis pas anxieux, eh ben, je veux dire que je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps en voiture pour me rendre à mon travail. Mais si je suis anxieux, donc du côté de l'anxiété, je ne vais pas y arriver, je vais avoir un accident, ça va être grave. Voilà, donc ça, c'est du côté de l'anxiété. Et puis l'angoisse, qui est quelque chose qu'on appelle une peur sans objet, il n'y a pas de raison particulière. Tout va bien dans ma vie, dans ma vie professionnelle avec mes enfants, mes parents, mes grands-parents, mes petits-enfants si j'en ai, etc., mes relations comme ça. Et pourtant, je sens que j'ai peur à l'intérieur de moi-même. Et là, en effet, on rejoint quelque chose qui a une double dimension, c'est-à-dire celle du côté de l'immanence, à savoir, il y a toujours un changement possible dans la vie, et dans l'extrait que vous avez cité avec Delumeau, en effet, il parlait de cette notion de changement, c'est tout à fait fondamental. Et deuxièmement, dans une dimension transcendante, c'est-à-dire, mais c'est quoi la vie? Quel sens elle a? Voilà, donc dans cette angoisse, il y a au fond toujours une angoisse de la mort. Hein. Et à l'inverse, on pourrait dire cette angoisse existentielle qui existe en permanence à l'intérieur de nous-mêmes, elle se saisit de tout, elle se projette sur tout. Voilà, donc à notre époque, par exemple, à un certain moment, elle a pu se projeter sur le coronavirus et avec l'idée que d'un seul coup, voilà, certains ont pu dire « on va tous mourir ». Et on a pu en rigoler, mais on peut aussi se dire que pour certains, ça les a touchés très en profondeur.
Alors, parallèlement à cette peur de la mort, effectivement, dans des périodes troublées, comme une révolution, n'importe quelle révolution d'ailleurs, hein, je pense que la révolution d'octobre en Russie était pas moins anxiogène que la révolution française, on voit bien que c'est tous les cadres habituels, tous les repères habituels qui vont tomber et qui s'effondrent. L'homme, sans ses repères, même s'ils sont très souvent très contraignants, et bien finalement est en proie aux peurs les plus grandes, aux angoisses les plus grandes.
Oui, tout à fait. C'était vraiment, je trouve, très, très pertinent votre introduction du côté du changement. Fondamentalement, la peur, c'est la peur du changement. Que ce changement soit du côté des circonstances de la vie ou que ce soit d'une rencontre. Hein. Peut-être on évoquera la question de la peur de l'autre, hein, de la xénophobie, de la peur de l'étranger. Voilà, c'est aussi une forme de changement. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de rencontrer du même, par exemple, du même que moi. Alors, il a le même nez, les mêmes habitudes, les mêmes goûts, etc. Et je vais rencontrer quelqu'un qui est différent. Donc, cette peur du changement, elle est fondamentalement associée la notion du changement est fondamentalement associée à la peur. Et évidemment, le changement le plus radical, c'est le moment où on passe de la condition de vivant à la condition de mort, même si être mort, on ne sait pas très, très bien ce que ça veut dire.
Le changement, docteur Dominique Desmichel, mais également la nouveauté, l'inconnu. Là, je pense par exemple à la peur du communisme qui a quand même, pendant une bonne partie du XXe siècle, a été extrêmement présente. Ou bien la peur du nucléaire, ou encore cette peur plus diffuse qui est la peur des banlieues dont on ne sait pas trop ce qu'il faut en faire.
Oui, je... Il y a ce texte de la Boétie, hein, qu'il a écrit alors qu'il était très jeune, qui est cette servitude volontaire. Donc On peut se dire, en effet, par exemple, au moment de l'émergence du communisme, ou en tout cas de grandes révolutions, on a vu ça, par exemple, au niveau des printemps arabes, par exemple, dans quelque chose qui était plus récent. On voit bien que là, il y a un désir de changement et que ce désir de changement, il ouvre vers un progrès possible. Mais qu'il y a cette loi d'une servitude volontaire, c'est-à-dire, mais j'ai en même temps peur que ça change, au fond. Et même si l'autre, il a des conditions de vie qui sont 2 fois ou 200 fois de plus meilleure qualité que la mienne, je préfère que ça ne bouge pas parce qu'il y a quelque chose qui est très rassurant dans le fait que ça ne bouge pas.
Alors, il y a un vecteur de la peur qui semble très important, qui semble souffler sur les braises de la peur, c'est la rumeur. Je pensais à la rumeur et je pensais, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé avec les fake news, évidemment, ou alors aux informations qui peuvent être contradictoires. Là, je pense à cette fameuse peur des banlieues. On nous dit parfois blanc, on nous dit parfois noir. Et la peur de la rumeur, évidemment, qui s'amplifie. Ça, c'est quelque chose qui va attiser nos peurs, évidemment.
La rumeur est quelque chose qui est d'une très très grande puissance. Pourquoi elle était d'une très grande puissance ? Parce qu'elle ne repose pas sur des faits. Les faits, ils sont concrets, ils sont précis, et au fond, dans un sens, ils ont une sorte de matérialité qui fait qu'on peut toujours se défendre. Voilà. Ce n'est pas la même chose de savoir qu'il y a toute chance que sa maison soit cambriolée la nuit d'après, ou la nuit d'après, ou encore la nuit d'après, parce que toutes les maisons du quartier ont été cambriolées et que la sienne va... Voilà. C'est quelque chose qui est très angoissant, mais qui est tout à fait incertain. C'est différent de se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de fouiller dans la serrure, là, mais au fond, j'ai le temps d'appeler la police, j'ai le temps d'appeler la gendarmerie, j'ai le temps de me défendre, j'ai le temps d'allumer toute la lumière, j'ai le temps de... Voilà. Donc, la rumeur, elle va venir nourrir tous les imaginaires. Donc, elle est la caisse de résonance de l'anxiété. Pas de la peur objective, hein, la peur, c'est un objet. Probablement toujours un tout petit peu de l'angoisse de fond, mais surtout de l'anxiété. Donc les anxieux vont se saisir avec une délectation douloureuse, si je puis dire, dans ces mots qui s'opposent, mais de la rumeur, parce que ça va venir rejoindre leur propre système imaginaire. Donc la rumeur est absolument délétère, parce que chacun va l'adapter. Quand c'est... le monsieur a été écrasé par le camion sur le passage clouté à côté. Il y a quelque chose qui est très rude, éventuellement à entendre, mais c'est un fait. Si c'est, il y a des fous, on va dire du côté des clichés, des jeunes des banlieues qui circulent à toute allure la nuit et à partir de 22 heures et qui écrasent tous les gens vulnérables, évidemment, on n'est pas dans le même registre. Il y a un fait, puis de l'autre, il y a une sorte de menace. Voilà. Alors quand c'est une rumeur, ça fait le lit de toutes les déploiements des imaginaires des anxieux.
Alors le problème, docteur Dominique Demichel, c'est peut-être aujourd'hui que rumeur et puis information se mélangent, parce que les médias qui sont censés nous informer de faits, comme vous le dites, parfois peut-être malgré eux, mais propagent des fausses nouvelles, ou bien certains, évidemment mal intentionnés, le font de manière exprès.
Oui, il y a certains, et parfois haut placés au niveau de certains présidents sur cette planète, qui en ont fait un petit peu leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire, la réalité n'est pas une réalité simplement objective. La réalité, c'est aussi celle que je décide. Voilà, je décide qu'il va y avoir... il y avait 100 000 personnes lorsque j'ai fait un discours. Les caméras montrent qu'il n'y en avait peut-être que 10 000, mais je décide qu'il y en a 100 000. Et comme on peut penser que parmi les auditeurs ou les spectateurs de la nouvelle, une grande majorité ne vont pas aller vérifier l'information, eh bien, le fait, entre guillemets, réel, ça va être « il y avait 100 000 personnes à ma conférence de presse ou à mon discours ». Voilà, donc ça fonctionne. C'est juste qu'on est évidemment dans un délit de probité, un mensonge total. Ouais.
Hein. Alors, il y a certains extrémistes, évidemment, qui ont bien compris la force de la rumeur et puis de la désinformation, c'est les terroristes, parce qu'on le sait bien, bien sûr, il y a des faits, des attentats, mais leur principale vocation, c'est de propager la peur dans toute une société pour, évidemment, la déstabiliser.
Oui, je crois que vous évoquiez tout à l'heure aussi la question de la terreur pendant la Révolution. Je ne suis pas du tout un bon historien, loin de là. Mais je pense en effet que la possibilité par des moyens audiovisuels qui sont souvent d'ailleurs pas très très coûteux, avec une sorte de plan de communication efficace, peut permettre en effet de terroriser relativement facilement, à moindre coût, si je puis dire, une population. Hein. Donc, on voit bien que de temps en temps, on voit bien, mais il faut au départ qu'il y ait quand même un acte bien précis qui donne une forme de crédibilité. Et ça, pour les terroristes, c'est en effet à partir d'un acte terroriste. Et puis ensuite, l'idée que nous sommes tout-puissants pour le répéter là où on veut, quand on veut et sans que personne ne le sache. Hein.
Alors, il y a une peur dont vous l'avez évoqué, docteur Dominique de Michel, mais je voudrais qu'on en reparle la semaine prochaine, dans une prochaine émission, c'est la xénophobie, parce que la semaine prochaine, nous parlerons des phobies. Alors, est-ce que la xénophobie, c'est comme le racisme, c'est comme l'antisémitisme? On essaiera d'en parler la semaine prochaine, donc, chers auditeurs, nous y reviendrons. À présent, docteur Dominique de Michel, eh bien, ma question est toute simple. Comment gérer ses peurs? Comment surpasser ses peurs? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces peurs qui nous paralysent et puis qui nous pourrissent l'existence, évidemment?
Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Hein. C'est-à-dire, en gros, on pourrait dire qu'il y a deux grandes approches. Il y a une approche très comportementaliste, très cognitiviste, à partir de choses extrêmement concrètes. Hein. C'est-à-dire, quelqu'un qui a peur des araignées, par exemple, eh bien, il va se documenter sur les araignées, apprendre, par exemple, que certes, les araignées sont des animaux carnivores, mais qu'en gros, elles s'adaptent de façon absolument exceptionnelle à l'homme, parce que l'humain est quelque chose qui est totalement étranger pour elles, ça ne les intéresse pas.
Et ça rejoint tout à fait, que ce soit la peur du communisme ou la peur des banlieues, on pourrait très bien effectivement se renseigner très précisément pour mettre un objet sur notre anxiété pour qu'elle se transforme.
Tout à fait. Et donc, on voit en particulier que l'information objective, ça aide dans une certaine mesure à calmer les choses. Même si, au fond, l'information objective ne calme pas les grandes hystéries, on pourrait dire. Quand je dis hystérie, c'est en tant que manifestation, ce n'est pas en termes de jugement de valeur. Hein. Voilà, ça ne calme pas les excitations hystériques. Donc, cette notion-là est tout à fait importante. Il y a un autre élément. Et alors, on voit ça, par exemple, dans le fait qu'on va ensuite se réadapter. À partir du moment où on peut regarder plusieurs fois des photos d'araignées, en apprendre dessus, la première fois prendre une petite araignée avec une petite pelle et un balai, et puis la mettre dans la pelle, et puis aller la reposer dans le jardin ou sur le balcon, voilà, on va s'acclimater. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Pour la peur des grandes foules, par exemple, la peur d'aller dans un magasin, il y a des systèmes de réadaptation où on fait les choses petit à petit. Voilà, voilà. Et ça marche. Ça, c'est la première chose. Et en gros, lorsque l'objet de la peur est très objectif ou très objectal, on pourrait dire, dans ces cas-là, il me semble que ce type de fonctionnement, ce type d'approche fonctionne relativement.
Regarder sa peur en face, c'est pas facile. Voilà.
Mais regarder sa peur en face, la connaître, l'explorer, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un petit peu intermédiaire avec le troisième, c'est en parler, discuter, rencontrer, par exemple, faire un club de gens qui ne supportent pas les araignées et qui vont être réellement très très handicapés. Il y a des gens qui sont très handicapés par ça. Pouvoir en discuter, partager comme ça, et on va collectivement se rassurer, c'est-à-dire au fond construire à l'intérieur de soi-même, ça c'est important en termes de mécanisme, construire à l'intérieur de soi-même un espace de sécurité ou un système défensif. Voilà.
Ce que vous faites à Jalmave avec des patients en fin de vie, c'est-à-dire la parole, c'est du même principe ?
Non.
Non, c'est encore autre chose.
Non, parce que là, l'objet phobique, si je puis dire, n'est pas de l'ordre de l'objet, il est de l'ordre de l'inconnu total.
Donc, par rapport à la parole que vous allez mettre, les mots que vous allez mettre sur cette angoisse.
Donc ça, on rejoint le troisième point. On rejoint le troisième point. Le premier point, c'est on regarde avec l'objet et on s'acclimate à l'objet. Le deuxième, c'est on se crée à l'intérieur de soi-même un imaginaire, en effet par la parole. Et puis, le troisième, pour la peur de la mort, on va y revenir, c'est quelque chose après. Et le troisième, c'est-à-dire on essaye de refaire une sorte d'espace à l'intérieur de soi-même pour comprendre et l'origine, et le sens, et la justification, et l'utilité de cette peur. Voilà, parce qu'elle a une fonction, elle a une origine, elle a une fonction. Donc ça, c'est essentiellement dans un travail d'élaboration, dans un travail de mise en image, dans un travail de retour sur l'histoire, qui permet de refaire du sens, de refaire du lien. Et voilà, pour donner un exemple, parce que moi j'aime bien donner des exemples, voilà. Je me souviens très bien d'une femme qui ne supportait pas, alors on entend moins ça, je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'était il y a pas mal d'années, qui ne supportait pas les avions qui passaient le mur du son. Vous savez, ça fait une espèce de gros bang. Et bah, tout le monde sursaute, voilà, puis c'est tout. Mais j'allais dire, trois secondes après, tout le monde a oublié, c'est terminé. Elle, ça la mettait dans une angoisse de panique absolument, extrêmement, extrêmement intense. Elle devait arrêter de travailler, voilà, et parfois c'était handicapant au point qu'elle devait rentrer chez elle, et voilà, ou prendre des médicaments. Enfin, c'était très, très handicapant. Et en fait, dans le travail de mémorisation qu'on a fait ensemble, dans ce travail, on a trouvé que était associée à... Alors, il y a une histoire un petit peu compliquée. Elle habitait, quand elle était enfant, à côté d'une base aérienne. Donc, il y avait des avions qui décollaient, sans qu'on soit sûr, d'ailleurs, qu'il y ait beaucoup d'avions qui passent le mur du son juste à côté, mais il y avait des avions, en tout cas. Et c'était associé, au moins pour un des événements, à un traumatisme pour elle, qui était en l'occurrence la mort brutale de son père. Donc au fond, l'élaboration, si je puis dire, le travail de deuil, comme on dit, même si ce mot est largement discutable, autour de la mort de son père n'avait pas été fait, et au fond, il y avait cette espèce d'objet devant qui était là et qui lui renvoyait quelque chose qui était fondamentalement traumatisant. Donc, il y avait juste que le petit objet devant, à savoir l'avion qui fait son bruit lorsqu'il passe le mur du son, et derrière, il y avait toute l'histoire de la mort de son père. Oui. Vous voyez ?
Et docteur Dominique Deschel, toute cette partie-là, je pense qu'on la réabordera beaucoup plus dans le détail la semaine prochaine, quand on parlera justement des phobies et des paranoïas, etc. Oui. Pour terminer notre émission, eh bien, donc, par rapport à la peur de la mort, pour boucler la boucle, évidemment, là, on est dans le domaine de l'anxiété. Il n'y a pas de véritable objet sur lequel on peut travailler.
On est dans le domaine de l'anxiété et on est surtout dans le domaine de l'angoisse.
De l'angoisse, l'angoisse, c'est ce que je voulais dire.
On est aussi dans le domaine de l'anxiété parce qu'il peut y avoir qu'est-ce que va devenir mon corps, comment ça se passe, est-ce que je vais souffrir, qu'est-ce que c'est qu'arrêter de respirer. Nous, on sait très bien, on arrête 20 secondes ou 30 secondes de respirer, bah, c'est insupportable, quoi. Voilà, ils vont bien avant 30 secondes d'ailleurs. Donc, il y a cette dimension-là. Et là, c'est vrai que la parole de réassurance, la parole, mais on sera là, on est autour de toi, ne t'inquiète pas. Voilà, puis tu sais, depuis très longtemps, les hommes et les femmes meurent. Voilà, personne n'est revenu se plaindre, certes, de ce qui s'est passé, mais on sera là. Donc, ça peut aider à calmer l'anxiété. Quand cette anxiété est trop importante, on utilise aussi des médicaments, que ce soit les anxiolytiques ou dans certains cas aussi des médicaments comme les neuroleptiques qui calment cette anxiété. Mais il y a toujours quelque chose autour de l'angoisse.
Hein, dire que c'est normal d'avoir peur, il ne faut pas avoir peur de la peur.
Moi, je pense que je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait normal de ne pas avoir peur à la mort. Hein. Je crois que... Voilà, à ce moment-là, on est comme le petit enfant qu'on mettrait dans une pièce toute noire et qui ne connaîtrait pas la pièce. Voilà, on peut dire, s'il n'a pas peur du tout dans cette pièce, c'est qu'il y a une part d'inconscience, alors peut-être d'enfance, peut-être, parce qu'il a une figure intérieure et il sait qu'il a un contenu maternel qui est à côté ou dans la pièce à côté et qui veille à... Voilà, mais on sait très bien que... nul ne sait si quelqu'un va nous accueillir de l'autre côté. Hein, voilà. Donc cette angoisse, je pense qu'elle est incontournable. Alors, il y a des gens qui le vivent de manière tranquille, et il y a des gens qui le vivent de manière terrible. Voilà. En effet, puisque vous évoquez les bénévoles de Jalmav, ils accompagnent les patients, et dans le cadre de la prise de parole verbale, ou dans le cadre de l'accompagnement en termes de de simple présence écoutante, chaleureuse de ces personnes, chacun a un petit peu l'idée que c'est aidant.
Docteur Dominique Desmichel, un grand merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Simon, au revoir.